C'est avec reconnaissance que je me tiens là ce matin, reconnaissance de pouvoir célébrer un temps d'adoration et de louange à notre Dieu avec l'Église du Tabernacle. C'est une grâce que nous puissions encore être libres de nous réunir pour célébrer notre Dieu. J'aimerais ce matin nous encourager avec quelques textes bibliques. Ce que j'aime faire pour me rappeler que nous ne sommes pas dans une tradition stérile de nous lever les dimanches matins et de nous rendre dans un lieu de culte, je me demande, dimanche après dimanche, Serge, qu'es-tu venu faire là, dans ce temps de culte? Alors je vous pose la même question, qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Que faisons-nous là tous les dimanches pour nous qui reprenons les cultes en présentiel et pour ceux qui se connectent en ligne? Je pense que vous avez votre réponse à cette question. Pour éveiller cette vie dynamique en moi, je me rappelle assez régulièrement ce passage, cette déclaration du Seigneur Jésus dans l'évangile de Luc, le chapitre 18, où après avoir donné une parabole, il disait, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je pense que c'est une question qui doit nous porter. Ce n'est pas, à mon avis, en suivant d'autres commentateurs bien sûr, ce n'est pas une déclaration défaitiste. Au contraire, le Seigneur Jésus est lucide dans ce qu'il dit. Il venait justement de donner cette parabole de la prière persévérante de cette veuve devant ce juge inique. Et il invitait donc pour que notre foi reste vivante, que nous puissions demeurer en communion avec lui dans la prière. N'est-ce pas que ce monde nous étreint de la très mauvaise façon, en nous poussant dans nos retranchements, en nous mettant à la marge, et notre foi est parfois bien bousculée aussi. Non, Dieu n'est pas défaitiste, au contraire. Et quand je lis quelques textes qui ne sont pas des textes d'enseignement, mais en tout cas des textes qui nous fortifient et qui sont la parole de Dieu, puisqu'ils sont dans la Bible, notamment Colossiens chapitre 4, c'est la fin de cette épître où l'apôtre Paul fait quelques salutations. Et ces salutations m'ont toujours interpellé. Lisons Colossiens chapitre 4, versets 7 à 15. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Première lecture de la parole de Dieu. Tant de personnes que Paul salue dans cette église de Colosse. Il les salue avec quelques appréciations de ce qu'ils sont. Et quand on lit ces noms que Paul cite là à la fin de cette épître, on se demande bien pour qu'on appelle Paul l'apôtre, le grand apôtre. Paul était grand parce qu'il vivait dans l'Église et qu'il était entouré de toutes ces personnes. Et c'est lui qui les qualifie de compagnons, de collaborateurs. Le grand apôtre Paul avait besoin de chrétiens et de chrétiennes ordinaires pour faire la mission. Pour nous en convaincre, lisons un deuxième texte, Romains chapitre 16. Encore une finale d'une épître où il salue des personnes. Avec la nuance que dans cette épître aux Romains, les commentateurs nous disent qu'il n'était pas fondateur de cette église, qu'a priori, il n'était pas lui-même dans l'ordinaire de cette église de Rome. Et pourtant, il y connaît tant de gens. Lisons Romains chapitre 16 à partir du verset 1. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquia, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épanéité, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de avec Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Quelle finale de lettre. Bien-aimés, l'Église de Dieu ne s'est pas construite avec des individualités. Elle s'est construite avec les enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul nous le rappelle bien au travers ces deux textes, ces deux finales, de deux épîtres, où il cite tant de personnes. On nous dit, quand on étudie celui de l'épître aux Romains, que les noms qu'il cite à partir du verset 8 jusqu'à la fin, on sait pas grand-chose de ces personnes. On n'a pas d'indice biblique qui nous donne des indications sur ces personnes. Et pourtant, Paul les connaît. Paul les cite. Paul est encouragé de rappeler leur mémoire. Nous sommes au XXIe siècle et nous parlons encore de ces personnes qui étaient, à leur époque, des anonymes dans l'Église, qui étaient comme vous et moi, des chrétiens ordinaires. Et pourtant, Paul juge qu'ils ont eu une action, une particularité, une activité pour bénir la mission de Dieu. Alors, mon intérêt ce matin, c'est de nous encourager. Si nous sommes chrétiens et chrétiennes, nous sommes tous connus de Dieu et utiles pour la maison de Dieu. Pour vous qui êtes ici, au tabernacle, que vous soyez devant ou derrière, ou que vous soyez assis simplement, que vous fassiez partie de cette communauté, il me semble que Dieu, en tout cas, si je m'appuie sur cette épître, sur ces deux finales, Dieu nous connaît et Dieu sait ce qu'il attend de chacun de nous dans cette œuvre. Il est étonnant que parlant de ces personnes, elles sont mixtes. L'apôtre Paul, souvent traité de misogyne, cite tellement de femmes dans ces deux finales. Et même celle de Romain commence avec une femme, saluée Phoebé, qui l'encense et qui la honore. L'Église de Dieu est l'Église des hommes et des femmes. Le service de Dieu est le service des hommes et des femmes. L'apôtre Paul l'a bien reconnu et il a cité toutes ces personnes. J'aimerais donc nous encourager à ne pas nous sentir petits, à ne pas nous sentir insignifiants, à ne pas dire « que puis-je faire pour l'œuvre de Dieu ?» Regardez ces deux listes, méditez-les, cherchez des informations sur ces personnes et vous verrez que la plupart étaient des personnes ordinaires, comme vous et moi. Et pourtant, l'apôtre Paul parle d'eux en des thèmes qui sont des thèmes qu'on utiliserait à notre époque pour, n'est-ce pas, avec des parenthèses bien sûr, parler de grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu. Je me demande parfois, qu'est-ce que ça veut dire un grand homme de Dieu? Je ne sais pas. Je sais simplement que des gens, des hommes et des femmes appelés par Dieu, se sont levés avec la force que Dieu leur donnait pour servir leur Dieu. Ils l'ont fait avec la force de leur Dieu. Alors Jésus, au travers de ce que Paul nous montre au travers de ces deux listes, a laissé une mission. Paul l'a accomplie. Et vous pouvez vous en rendre compte en lisant les Actes des Apôtres et tous les épîtres qu'il nous a laissés poussés par Dieu. Et ce travail, c'est pour toutes les nations. Faire de ses disciples des communautés de croyants, c'est-à-dire des églises locales. Bien-aimés, quand nous lisons les temps de mission primitifs, l'idée n'était pas de sauver que des individus. L'idée, certes, était de proclamer l'évangile, que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu, mais qu'ils soient rassemblés en église locale. Que de chrétiens aujourd'hui restent chez eux? Que de chrétiens aujourd'hui considèrent que l'église locale n'a pas lieu d'être? Honnêtement, si on est ancré bibliquement, on ne peut pas avoir cette conviction-là. L'église locale est au cœur de la mission. Quand les apôtres se déplaçaient et qu'ils annonçaient l'évangile, ils constituaient une église locale de tous les saints, sauvés par Dieu. Ils les structuraient, ils les organisaient et ils leur donnaient cette ordre de mission de continuer à faire de même, bien-aimés. Alors, la question pour nous, alors que nous parlons de mission de Dieu, c'est comment nous sommes impliqués dans cette mission? Comment la vivons-nous chez nous? Comment mettons-nous à profit des occasions favorables? Comment défendons-nous notre foi? On en a bien besoin actuellement, en tout cas, ils sont. Et puis enfin, comment est-ce que nos foyers, nos familles peuvent être des centres pour la mission? Quelquefois, quand on parle de mission, on pense tout de suite à la mission au loin, à partir. Il me semble que parfois, il ne faut pas la penser comme ça, en tout cas, pas exclusivement. Lorsque l'apôtre Paul nous cite ces personnes, c'est vrai qu'elles sont situées dans une église locale, mais parmi ces personnes qui nous citent, nous avons certaines qui n'étaient pas de cette église et qui sont venues de d'autres églises aussi et qui ont été même des compagnons de captivité de l'apôtre Paul. Prendre part à la mission sur toute la terre. Cette église, le tabernacle, c'est de quoi on parle lorsqu'on parle de prendre part à la mission sur toute la terre. Elle a été un berceau de cette mission-là. 1827, une date qui marque cette église, l'envoi du premier missionnaire en Côte d'Ivoire. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ce zèle d'antan. Prendre part à la mission sur toute la terre. Quand Luc écrivait à Théophile dans son évangile, il écrivait pour l'instruire correctement dans la foi. Il instruisait pour que Théophile puisse réaliser quel était l'ordre de mission. La mission était au sein de l'Église. Il voulait instruire Théophile dans la foi, cette foi qui a été annoncée par les apôtres de Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres nous montre cet itinéraire. Trois éléments principaux à la base de la stratégie, de ce qu'on appelle la stratégie de l'apôtre Paul. Paul annonçait l'évangile car il avait cette conviction, comme nous l'avons chanté, que les hommes ont besoin de recevoir Dieu pour que ce cœur si noir, si tordu, soit tourné en bien, selon Dieu. L'actualité est tellement triste, bien-aimé. Hier encore, un homme de 62 ans a poignardé deux jeunes de 18 et de 20 ans pour un différend sur le prix d'un téléphone. Oh, il a arraché la vie pour le prix d'un téléphone. Voilà pourquoi l'évangile est une urgence. Annoncer cette parole pour que le cœur soit changé, pour que la vie soit transformée. Nous l'avons chanté. Cet évangile annoncé, sauver des âmes, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Ensuite, il les rassemblait dans ce qu'on appelle l'Église et il les instruisait pour qu'ils grandissent dans leur foi. Comme l'a dit le pasteur Jean-Paul tout à l'heure, quelquefois, certains ont confessé Christ, mais ils ne sont pas conséquents dans leur vie après. Et justement, ce deuxième volet de la mission était d'instruire ces personnes, de les enseigner pour que leur foi soit une foi solide et qu'ils puissent maturer année après année. Et en troisième lieu, il organisait l'église locale. Il établissait des responsables, des ministères, pour que cette église ait une vie abondante, pour qu'elle-même soit aussi source de bénédiction ensuite. Cette mission universelle consiste à multiplier les églises. Et c'est ce que cette église a fait, cette église du tabernacle. En allant en mission, aujourd'hui elle a donné naissance à une grande union d'églises en Côte d'Ivoire qui continue cette œuvre et qui continue d'implanter des lieux de culte. Prendre part à la mission chez soi. L'apôtre Paul, écrivant à Tite, lui disait, Tite chapitre 2, quelques versets que je lirai, il dit « Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect, que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. » Paul désirait que ces églises locales deviennent des témoins actifs de Jésus-Christ. Au sein de leur propre communauté, entendez communauté, pas juste la communauté chrétienne, mais la communauté, la ville, le quartier, le pays qu'ils habitaient, bien-aimés. Il semble que cette église du tabernacle a été une lumière dans ce quartier, dans cette partie de Paris, qu'elle a apporté beaucoup de contributions ici. Je ne vous demanderai pas, est-ce que cette lumière continue de briller? La réponse, vous la connaissez. Mais en tout cas, mon encouragement, c'est que sur cette fondation bonne, saine et puissante, que vous puissiez continuer de construire, que vous puissiez prendre part à la mission ici, que votre témoignage ici soit un témoignage, qu'il soit collectif, communautaire ou qu'il soit individuel. En regardant cette liste de ces deux épîtres que je vous ai citées, vous pouvez être encouragé à regarder cela dans ce sens. Les croyants que nous sommes, nous avons à vivre dans notre communauté, sinon dans nos communautés, comme s'il y avait une mission, celle d'être les témoins vivants et efficaces de l'Évangile. Encore plus aujourd'hui qu'hier, il me semble. Nous avons besoin d'être nous-mêmes dans une société qui veut que nous soyons tout sauf rien finalement et que parfois la revendication de quelques minorités est forte et véhémente et nous, nous sommes tellement silencieux. Je ne sais pas, nous sommes tellement obéissants que parfois nous gommons notre identité ou en tout cas nous la faisons taire ou nous passons de façon silencieuse. Je ne suis pas de nature révolutionnaire, mais je dis, je suis un chrétien, c'est ma nature. Je dois être un chrétien, je dois la vivre simplement. Nous devons être ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens et nous sommes des chrétiennes. Nous avons des valeurs, c'est Christ qui nous les a données. Nous devons juste les vivre, et d'autant plus que nous sommes des plus gentils dans cette société. Nous ne combattons pas avec des armes, nous combattons avec un cœur transformé, à l'image de Jésus-Christ. Un cœur étreint et pris, rempli d'amour de Jésus. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes. Nous devons nous ne devons pas. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des hommes et des femmes dont les fruits doivent être des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes. Je suis parfois plus jeune que certains d'entre vous ici. Mais je suis triste de voir que parfois l'Église de Dieu, l'Église de Dieu se combat elle-même. C'est une tristesse. C'est une tristesse. Le défi qui est le vôtre, c'est de vivre votre foi dans cette église locale en combattant le bon combat. Ne vous trompez pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Le combat, c'est de parler de cet amour de Dieu. Non, de vivre cet amour de Dieu. De démontrer cet amour de Dieu. Jésus disait, comment sauront-ils? Il dit, c'est par l'amour que vous manifesterez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes du Père et qu'il glorifiera le Père. Alors, retroussons nos manches et continuons de vivre ce bel amour que Dieu a mis dans nos cœurs par son Esprit Saint. Et justement, nous sommes invités à nous saisir de toutes occasions, de toutes les occasions du moins favorables. Il le dit encore, c'est le même apôtre Paul dans cette même épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 5 et verset 6, il dit « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec propos à chacun. » Nous devons être des hommes et des femmes bienfaisantes. Ces vertus qui étaient des vertus du chrétien d'autrefois, on peut souvent les regretter dans nous qui sommes tellement impactés par une société violente où les paroles partent au quart de tour, où nous sommes tous à fleur de peau finalement. Que Dieu nous aide pour que ce témoignage vivant auquel il nous appelle, qu'il soit un témoignage puissant, rempli de l'amour de Dieu dans notre quotidien, de sorte que des occasions, Dieu nous les donne pour attirer d'autres à lui, n'est-ce pas? Je reste toujours muet devant cette évocation dans le livre des Actes, lorsque nous entendons et que nous lisons que cette église naissante primitive manifestait tellement la volonté de Dieu et l'amour de Dieu que Dieu ajoutait chaque jour à cette communauté ceux qui étaient sauvés. Bien sûr, peut-être que ce verset est une synthèse de beaucoup de choses que nous ignorons, mais en tout cas, il est là. Il est là pour nous dire que si une communauté vit l'amour de Dieu, si une communauté locale, une église, se plaît à vivre cet amour, Dieu crée des occasions favorables pour que nous parlions de lui, pour que nous attirions d'autres. Je suis convaincu que dimanche après dimanche, mois après mois, Dieu ne cesse d'envoyer au moins une personne dans chaque église locale. Quel accueil, quel témoignage. En tant que chrétien du 21e siècle, nous empruntons souvent l'une ou l'autre de ces deux impasses suivantes. La première consiste à mémoriser une présentation de l'Évangile sous forme de recettes toutes faites et de chercher des occasions propices allant jusqu'à les provoquer pour partager l'Évangile avec des non-croyants. La seconde erreur consiste à mettre tellement d'emphase sur la relation que nous ne nous risquons jamais à faire part de l'Évangile à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il dit cet auteur? Il dit que souvent l'évangélisation ou la mission devient tellement technique que finalement on apprend des techniques, on apprend des façons de faire et on cherche la bonne occasion pour les mettre en pratique. Parfois on est bien dessus, en tout cas moi ça m'a bien dessus des fois parce que ça ne se passe pas toujours comme ça non plus. Et d'autres fois on met tellement l'emphase sur la relation avec des personnes non croyantes que nous ne créons pas une occasion pour dire la vérité de l'évangile finalement, au risque de perdre cette relation. Que Dieu nous aide. Et enfin, nous avons à défendre notre foi dans un monde qui nous oppresse. 1 Pierre chapitre 3, verset 15 et verset 16. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de vous, votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui constamment appelés à dire pourquoi nous ne sommes pas d'accord ou pourquoi nous sommes d'accord. Nous sommes constamment jugés d'être des conservateurs, des gens d'autrefois. Nous sommes constamment au banc des accusés parce que nos valeurs, semble-t-il, ne sont pas modernes, en tout cas pour quelques-unes. Et nous sommes parfois astreints de bien peser nos mots quand nous parlons de quelqu'un. Bref, nous sommes invités à défendre notre foi. Mais nous l'avons toujours fait. Nos aînés l'ont toujours fait. Nos dévanciers l'ont toujours fait. Avec humilité, avec respect. Et nous devons nous saisir de ce flambeau que les aînés nous ont transmis pour nous aussi défendre notre foi. Il ne s'agit pas de défendre Dieu. Dieu est tout puissant, il se défend tout seul. Il s'agit de dire pourquoi nous croyons qu'il existe et pourquoi nous voulons persévérer dans la vérité de l'Évangile. L'Évangile n'est pas désuète, l'Évangile n'est pas ringarde, l'Évangile n'est pas dépassé. La parole de Dieu est toujours actuelle, elle est la même. De nos jours, le chrétien doit savoir non seulement en quoi il croit, mais aussi pourquoi il a ses convictions. Tout chrétien devrait être capable de défendre sa foi. Il s'agit là d'une responsabilité spirituelle qui nous est clairement exposée dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect. Voilà cet itinéraire que je voulais vous indiquer ce matin. Itinéraire de foi, itinéraire d'engagement, itinéraire de confiance à des hommes et des femmes ordinaires comme les deux listes que je vous ai présentées. Parfois, on a la conviction, peut-être pas toujours exacte, que faire l'œuvre de Dieu, c'est pour les autres et que nous n'avons pas de talent ni de compétences. Je me tiens là aujourd'hui avec beaucoup de respect et avec tremblement. Si on m'avait dit, il y a 17 ans, que je serais en train de prêcher au Tabernacle, à Paris, c'était impensable. De là d'où je viens, on parle du Tabernacle, c'est cette église qui a eu tellement de courage dans la mission et qui a impacté le pays d'où je viens. Et aujourd'hui, je suis là, invité. Moi qui suis parmi les ordinaires, je fais partie de ceux qui servent Dieu aujourd'hui. C'est à la portée de tout le monde de servir Dieu. Et je vous invite à servir Dieu ici, dans votre église, et à servir Dieu au loin, avec votre église. Je vous invite à prier. Seigneur, mes paroles sont des exhortations pour mes bien-aimés de cette communauté. Ma prière, c'est que nous sommes dans un lieu, dans une église, que tu as dédié il y a bien longtemps avec une flamme qui s'est répandue. Fasse que cette flamme continue d'être allumée ici, d'être allumée dans le cœur de chacun et de chacune. En Jésus-Christ.